Il est 23h30 à Kinshasa, une heure de plus à Paris.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Kinshasa et Brazzaville, les capitales respectives des deux Congos, endeuillées par les inondations survenues dans la nuit de vendredi à samedi. L'ampleur de ces pluies en pleine saison sèche a surpris. Au Tchad, un procureur interdit toute enquête de la presse et de la société civile sur le massacre de Mandakao, théâtre de violences communautaires début mai, bilan une quarantaine de morts. Et puis au Mali, reprise des négociations ce dimanche pour obtenir la libération d'une centaine de civils enlevés par des djihadistes dans le centre du pays depuis avril 2024. Mais avant de développer ces titres, focus sur la béatification du Congolais Floribert Boinachui ce dimanche lors d'une messe solennelle dans la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. Ce contrôleur des douanes de Goma a été assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir refusé de laisser entrer en RDC des vivres avariés. Il est devenu dans son pays et pour l'Église une figure charismatique en raison de son courage face à la corruption. Juvénal Munobo, avocat et ancien député congolais, était son ami et il était présent à Rome ce dimanche après-midi pour assister à l'office.
Boinachui s'est trouvé dans une situation où il pouvait tenter justement de prendre la corruption, c'est-à-dire de prendre l'argent, de ne pas appliquer les normes de conformité comme commissaire aux avaries, parce que c'est lui qui était appelé à constater si les marchandises étaient autorisées pour la commercialisation. Mais lui, il a vu qu'il fallait prévenir, il fallait interdire la commercialisation de ces marchandises pour préserver la santé de la population, pour que des marchandises avariées ne puissent pas causer de maladies. Il s'est donné jusqu'au sacrifice suprême. Et comme l'a dit le cardinal Ambongo, c'est un appel à plus d'engagement pour ceux qui dirigent et à plus d'engagement pour tout le Congolais pour instaurer une bonne gouvernance et une transparence dans la gestion de la chose. Il était membre très actif de la communauté de Sant'Egidio, qui est l'une des communautés catholiques. Et il assistait les pauvres, les enfants de la rue, à leur donner à manger, à leur donner une école. Donc il était très actif dans les cadres de son association.
Rapport recueilli par Clotilde Hazard. Retour à présent sur les inondations meurtrières survenues à Kinshasa dans la nuit de vendredi à samedi. Et plusieurs quartiers de la capitale de la RDC se sont retrouvés samedi sous les eaux boueuses après des pluies torrentielles. Bilan au moins 19 morts à Kinshasa. 3 personnes ont également perdu la vie sur l'autre rive du fleuve, à Brazzaville. Dans les deux cas, Simon Rosé, l'ampleur de ces pluies en pleine saison sèche a surpris.
Jusqu'à 90 mm de pluie tombée en quelques heures à la mi-juin. L'ampleur de l'événement a surpris par sa soudaineté et son intensité. Benjamin Sultan est directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
On est en saison sèche, donc c'est possible d'avoir des pluies lorsqu'on a des vents qui sont chargés en humidité, qui viennent de l'océan, du golfe de Guinée notamment. Mais ça reste très rare et c'est pour ça que ça a surpris tout le monde.
Phénomène qualifié d'extraordinaire par les autorités, il a entraîné un lourd bilan au-delà de la vulnérabilité de Kinshasa. À ce type d'événement, il illustre également la nécessité d'améliorer les systèmes d'alerte.
Dans des endroits du monde, on a moins d'observations météorologiques, qui est extrêmement compliqué pour construire ces alertes précoces. Et puis, on a aussi des populations qui peuvent être non couvertes par ces alertes. Par exemple, en avril dernier, l'alerte avait été déjà donnée, en fait. Mais les moyens ont sans doute manqué pour évacuer les populations.
Nécessité, car les conséquences du réchauffement climatique se font déjà sentir.
Pour chaque degré supplémentaire, on a un contenu effectif en vapeur d'eau qui augmente en moyenne de 7%. C'est cet excès d'humidité dans l'atmosphère qu'on va retrouver ensuite occasionner des pluies très intenses. Le type d'événement qu'on a pu avoir, par exemple, en 2022 au Nigeria, des études d'attribution ont montré qu'ils ont été rendus 80 fois plus fréquents et 20% plus intenses à cause du réchauffement climatique.
L'an dernier, en Afrique centrale, 4 millions de personnes avaient été touchées par des inondations.
Simon Rosé, au Zimbabwe, les audiences tant attendues sur les massacres des années 80 débuteront le 26 juin. Annonce faite ce dimanche par le panel de chefs locaux mis en place par le président Emmerson Mnangagwa. Pour rappel, quelques 20 000 civils de la minorité Ndébélé avaient été tués dans l'ouest du pays peu après l'indépendance. En 2024, le chef de l'État avait annoncé que les survivants seraient interrogés lors d'une série d'audiences dans les villages pour tenter de régler les griefs et les tensions accumulées depuis de longues années. Au Tchad, depuis samedi, les journalistes et les membres de la société civile n'ont plus le droit de se rendre à Mandakao. Pour rappel, ce village situé dans le Logone occidental a été le théâtre de violences intercommunautaires début mai. Bilan, une quarantaine de morts. Violences selon la justice en lien avec l'arrestation il y a tout juste un mois du principal opposant tchadien Succès Masra, accusé d'en être le commanditaire malgré ses dénégations. Pour le procureur, il s'agit de ne pas empiéter sur les prérogatives de la justice. Les responsables des médias et la société civile dénoncent une volonté de cacher la vérité sur ce qu'il s'est passé. Ezra Snigman.
Pour la justice tchadienne, l'intervention des journalistes et de la société civile pourrait fausser les investigations en cours. Le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena leur a donc lancé une sévère mise en garde. Ne retournez pas à Mandakao pour mener vos propres enquêtes, Oumar Mahmat Kedelaï.
Des juges d'instruction ont été saisis et ont commencé à poser des actes dans le cadre d'une enquête préparatoire déjà ouverte par le parquet d'instance. Par conséquent, compte tenu de la sensibilité de l'affaire, toute autre démarche parallèle est susceptible de constituer un empiétement sur les fonctions judiciaires ou des usurpations de fonctions et pourrait éventuellement exposer son notaire à des poursuites judiciaires.
Réaction de l'Union des journalistes du Tchad, c'est une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'informer, dénonce le secrétaire général de l'UGT, qui assure que le procureur cherche à faire taire les journalistes, Ange Al-Hassim.
Nous sommes estomaqués par cette déclaration du procureur. Ce que le procureur exige de nous, c'est purement et simplement, c'est le retour à la censure. Ce qui n'existait plus au Tchad depuis 1994. Nous ne disons pas que le secret de l'instruction doit être foulé aux pieds. Nous disons simplement que les journalistes ont le droit d'aller enquêter pour dire ce qui s'est passé.
Et pour un membre de la société civile tchadienne, cette interdiction cache mal, dit-il, la volonté de garder sous cloche la vérité sur Mandakao. Dans quel intérêt s'est-il interrogé sans donner de réponse?
Ezra Sndikouman. Au Mali, de nouvelles initiatives locales pour tenter d'obtenir la libération d'une centaine de civils otages des djihadistes dans la région de Mopti depuis avril 2024. Une poignée de personnes a été libérée au fil des mois, mais on est toujours sans nouvelles de la plupart de ces otages depuis leur enlèvement. Des tractations ont donc été relancées ce week-end pour obtenir la libération de ces dizaines de civils originaires de cette région du centre du Mali. Correspondance régionale, Serge Daniel.
La nouvelle initiative pour obtenir la libération des otages est pilotée par un haut fonctionnaire de l'administration malienne dont les services sont basés dans la région de Bandiagara. Au moins deux chefs de village de la même région sont associés aux négociations. Moins nous parlons, plus les négociations avanceront, confie une source proche du dossier. Les djihadistes contrôlent des localités de cette région, les autochtones qui y vivent se soumettent à leurs lois. Il n'est pas exclu que cette clause puisse figurer parmi les points d'un éventuel accord pour la libération des otages. Dans le groupe des civils enlevés, certains sont accusés d'informer l'armée des positions des djihadistes. Sur ce point, les négociateurs devraient aussi rassurer les auteurs des enlèvements. La centaine de civils enlevés en avril 2024 était à bord de trois bus de transport circulant dans la région centre du Mali. Dans un premier temps, des hommes armés de présumés djihadistes ont arrêté les autocars, quelques passagers libérés. Selon certaines sources, le convoi a ensuite pris la direction d'une forêt située entre les localités de Bandiagara et de Bankas. Serge Daniel, Dakar, RFI.
En Guinée, le chef de la junte au pouvoir annonce la création d'une direction générale des élections au sein du ministère de l'Intérieur, annonce faite dans un décret lu samedi soir à la télévision nationale. Selon ce décret, la nouvelle entité sera notamment chargée d'organiser les élections politiques et les référendums et d'établir et réviser le fichier électoral biométrique. Au lendemain de l'attaque meurtrière perpétrée au Nigeria, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Makurdi, capitale de l'état de Benue, dans le centre du pays. Selon des témoins, la police a dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène. Pour rappel, dans la nuit de vendredi à samedi, un conflit intercommunautaire pour le contrôle des terres a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes à Yelewata, localité du centre du pays. Et puis le groupe du Magna Aligo Dangote va directement fournir de l'essence et du diesel à de nouveaux distributeurs au Nigeria. La raffinerie Dangote, située en périphérie de Lagos, la capitale économique du pays, a commencé ce dimanche la distribution de diesel et d'essence aux distributeurs, aux détaillants d'essence, aux fabricants, aux entreprises de télécommunications, à l'aviation et à d'autres grands utilisateurs à travers le pays. Après 8 ans de travaux, des mois de négociations, arrestations et plusieurs faux départs. La plus grande raffinerie d'Afrique, d'une capacité de 650 000 barils jour, a commencé en septembre à livrer ses premiers litres d'essence au pays sur l'ensemble du territoire. 1040 à Paris. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.